VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakidza avec vous dans cette édition du lundi 7 mars 2022. Au sommaire, au Burkina, le nouveau gouvernement promet de soulager les souffrances des populations. Deux casquets bleus et deux soldats maliens tués au Mali. Guerre en Ukraine, la Russie refuse de comparaître devant la Cour internationale de justice dans une procédure initiée par l'Ukraine. Présidentielle en France, 12 candidatures validées pour le premier tour d'avril. Également, dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement de transition s'est réuni pour la première fois ce lundi. Il s'est engagé à travailler avec abnégation pour soulager les souffrances des populations. Claire Morégibourg.
Albert Ouédraogo, le nouveau Premier ministre, s'est exprimé à la sortie de cette première réunion. Nous avons pris l'engagement devant le chef de l'État de soulager les souffrances des populations et de restaurer les limites territoriales, a-t-il déclaré. Nommé jeudi, cet économiste de 53 ans a formé samedi un gouvernement de 25 membres, dont 6 femmes, pour diriger le pays pendant 3 ans durant la transition. Albert Ouédraogo a précisé que les priorités du nouveau gouvernement sont la lutte contre le terrorisme, la restauration du territoire national, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Parmi les membres du nouveau gouvernement figure le général Barthélémy Saint-Poré, déjà ministre de la Défense sous Monsieur Kaboré, et Yeroboli, ministre de la Cohésion et de la Réconciliation nationale, ayant servi dans différents gouvernements de l'ex-président Blaise Compaoré.
Nous y reviendrons en page magazine de cette édition. L'armée française annonce ce lundi avoir tué un haut cadre algérien du groupe djihadiste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique au Mali. De leur côté, l'armée malienne et la MINUSMA annoncent de nouvelles pertes dans leur rang. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon l'état-major français, c'est dans la nuit du 25 au 26 février que la force Barkhane a conduit une opération visant un haut cadre historique d'Akmi à environ 100 km au nord de Tombouctou. L'Algérien Yahya Djouadi, alias Abou Amar Al-Jazeri, est présenté comme le coordinateur financier et logistique. L'armée française assure que la force Barkhane reste déterminée à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes avec ses alliés sahéliens, européens et nord-américains malgré le retrait en cours de 2400 militaires français stationnés au Mali sur un total de 4600 hommes au Sahel. Pour l'heure, les attaques visant les forces de sécurité maliennes et de maintien de la paix se poursuivent. Deux casques bleus de la MINUSMA et deux soldats maliens ont été tués ce lundi matin dans deux incidents. Un convoi logistique de la MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé au nord de Mopti, dans le centre du pays, selon le porte-parole de la force onusienne. Pour sa part, l'armée malienne annonce la mort de deux de ses soldats lors de combats dans la région de Gao, qui donne un bilan de 9 tués côté assaillant. Bamako a décrété samedi un deuil national de 3 jours après la mort de 27 soldats dans des affrontements à Mondoro, dans le centre. Ce sont 10 terroristes ont été neutralisés lors de ces combats, selon l'armée.
L'ancien rebelle tchadien Younous Wakaï Timi, qui a connu le maquis puis l'exil après avoir combattu l'ancien président Idriss Déby Itno, implore ses anciens camarades de comprendre qu'il est temps d'arrêter la guerre pour que le Tchad se développe. Ancien dirigeant de l'Union des Forces pour la Démocratie et le Développement UFDD, Wakaï Timi avait rejoint ce groupe rebelle en 2005. Il a décidé de rentrer à l'appel du nouveau chef de l'État. Au moins 4 personnes, dont 2 enfants, sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi, une semaine après un drame similaire dans la capitale économique ivoirienne, selon un bilan provisoire des services de secours. Une trentaine de personnes ont été évacuées, dont 13 ont été hospitalisées. Les recherches se poursuivaient lundi, des personnes étant encore coincées dans les décombres. Le parquet général guinéen a requis lundi l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de 2 hommes d'affaires libanais résidant en Guinée, Ali Sadé et Ibrahim Taher, financiers présumés du mouvement libanais armé chiite pro-iranien Hezbollah. Plus de 300 civils ont été tués depuis fin novembre dans une série de bombardements aériens dans le nord de l'Éthiopie, particulièrement dans la région du Tigré, a indiqué lundi la haute commissaire de l'ONU aux droits humains. S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet a indiqué que la situation en termes de droits et de sécurité s'était significativement détériorée depuis la fin novembre. 4 personnes sont mortes au Kenya de la fièvre jaune, une maladie virale grave dont des cas ont récemment été détectés dans le pays pour la première fois depuis des décennies, annoncé lundi le ministre de la Santé. Par ailleurs, le fabricant américain de vaccins Moderna a annoncé lundi la construction de sa première usine africaine de vaccins au Kenya après la signature d'un accord préalable qui prévoit la production de 500 millions de doses par an.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le Conseil constitutionnel a rendu public ce lundi la liste des candidats autorisés à prendre part au premier tour de la présidentielle prévue le 10 avril prochain. 12 candidats seront en lice. Mohamedou Oumfa.
C'est dans une déclaration diffusée par vidéo que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a révélé la liste des 12 candidats retenus. Ce matin, conformément à la Constitution et au texte en vigueur, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste officielle des candidates et candidats pour l'élection à la présidence de la République qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains, a expliqué M. Fabius. Il a précisé avoir reçu 13 672 parrainages d'élus, dont 13 427 ont été validés. Les 12 candidats qui ont obtenu les 500 signatures nécessaires dans au moins 30 départements différents sont Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et le président sortant Emmanuel Macron. Le Conseil constitutionnel s'est aussi assuré du consentement des candidats à participer à l'élection et à constater le dépôt d'une déclaration de patrimoine et d'une autre d'intérêt et d'activité, a précisé M. Fabius.
La troisième session de négociations russo-ukrainiennes visant à trouver un règlement au conflit en Ukraine s'est achevée lundi en fin de journée avec quelques résultats positifs sur les couloirs humanitaires, a annoncé un membre de la délégation ukrainienne sur Twitter. De son côté, le représentant russe à ces discussions, Vladimir Medinsky, a déploré que cette session n'a pas été à la hauteur des attentes de Moscou. Nous espérons que la prochaine fois, nous pourrons réaliser une avancée plus importante, a-t-il ajouté. Le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Boris Johnson sont déterminés à continuer d'augmenter le coût infligé à la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine, selon un communiqué publié lundi par la Maison-Blanche après une vidéoconférence entre les 4 hommes. Le front très uni jusqu'ici des Occidentaux en matière de sanctions économiques semblait se fissurer lundi sur la question d'un embargo sur les ventes de gaz et de pétrole russe, une option que rejette l'Allemagne en particulier. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid se sont rencontrés lundi à Riga pour évoquer l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les négociations sur le programme nucléaire iranien. La Russie a refusé de comparaître lundi lors de l'ouverture des audiences devant la Cour internationale de justice dans une procédure initiée par l'Ukraine qui demande au plus haut tribunal de l'ONU d'ordonner à Moscou d'arrêter son invasion. Le Conseil de l'Europe a réclamé lundi la mise en place de couloirs humanitaires viables en Ukraine et exhorté Moscou à mettre fin à la répression sans précédent de la liberté d'expression. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé le cynisme moral et politique de Poutine sur les couloirs humanitaires. L'Union européenne a lancé aujourd'hui la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie, a annoncé la présidence française du Conseil de l'Union européenne. La Commission européenne va devoir exprimer un avis officiel et les 27 devront ensuite décider s'ils accordent le statut de candidat aux demandeurs avant des négociations longues et complexes. Un accord sur le programme nucléaire iranien doit assurer les droits égaux de toutes les parties, y compris la Russie, soumise aux sanctions occidentales après l'invasion de l'Ukraine, a averti lundi Moscou, ce qui pourrait retarder la conclusion des négociations. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Rosine Mounezero.
Le président sénégalais Macky Sall a lancé samedi le chantier de travaux de la deuxième phase du train express régional TER de Dakar visant à désengorger la capitale après l'inauguration en décembre d'un premier tronçon. La ligne inaugurée en décembre sera prolongée de 19 km, soit sur le tronçon entre Diamandio et Dias, où se trouve l'aéroport international de Dakar, Blaise Diagne. En Libye, la compagnie nationale libyenne de pétrole a annoncé dimanche la suspension de la production sur deux sites dans l'ouest du pays, après qu'un groupe armé a fermé les vannes acheminant le brut sur les sites d'Al-Sharara et d'Al-Fil. Cette fermeture a entraîné des pertes de 330 000 barils par jour et une perte quotidienne de 32 millions d'euros, selon la compagnie qui a déclaré l'état de force majeure. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les cours mondiaux de nombre de matières premières stratégiques à usage industriel ou alimentaire ont atteint des niveaux jamais vus. En Europe, le cours du blé flambe depuis le début du conflit pour atteindre lundi un prix inédit à 450 euros la tonne. Les cours du pétrole se sont approchés lundi de leur plus haut historique, dépassant brièvement 130 dollars le baril pour la première fois depuis 2008.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer avec le coup d'envoi de la deuxième édition de la Basketball Africa League donnée samedi à Dakar au Sénégal. 12 clubs de 12 pays différents répartis en deux zones, la conférence Sahara et celle Nil. Le Sénégal accueille la conférence Sahara pour un premier tournoi de qualification. Hier, les Tunisiens de l'US Monastir, finalistes lors de la première édition, ont bien démarré par une victoire 77-71 face aux Mozambicains de Ferroviário da Beira. Toujours hier, les Rwandais d'Energy Group ont créé la sensation en battant l'AS Salé du Maroc 91-87. Début raté par contre pour le club hôte. Le Duc Dakar Université Club a été battu en ouverture samedi par les Guinéens du Slack 85-70. Pas de match aujourd'hui. Les équipes effectuent leur deuxième sortie demain. Les deux perdants des premiers matchs, les Sénégalais de Duc et les Mozambicains de Ferroviário da Beira, s'affrontent dans une opération relance. La saison 2 de cette balle, initiée par la NBA en partenariat avec la FIBA, est donc en marche. De quoi réjouir le président de la balle, Amadou Gallo Fall.
Le feedback que nous avons reçu de partout, des gens qui ont vu ces retransmissions dans plusieurs pays à travers le monde, qui ont donné leur feedback. Alors c'était un bon début. Nous nous réjouissons de cette entrée en scène. Mais évidemment, nous gardons les pieds sur terre. Nous savons qu'il y a énormément de travail à faire. On ne s'attendait pas à venir au premier jour et puis vraiment faire tout parfait. Nous étions loin de là et nous en sommes conscients et nous allons être meilleurs la prochaine fois. C'était l'objectif pour aujourd'hui. Je vois du très bon basketball, de très haut niveau, des joueurs qui sont en train d'étaler leur talent et c'est l'objectif.
Amadou Gallo Fall, président de la balle. Handball, les championnats juniors et cadets féminins d'Afrique ont eu lieu à Conakry en Guinée. Chez les moins de 20 ans, l'Angola s'impose en prenant le dessus sur l'Égypte en finale, 18-17. Les Égyptiennes se sont reprises au niveau des cadettes, s'offrant le trophée après avoir réalisé le plein 5 victoires en 5 matchs. La dernière rencontre face aux Guinéennes s'est soldée par un score de 35-31. Football en Côte d'Ivoire, Touré Makadi, un des entraîneurs de la section féminine du club de football Africa Sport, a été suspendu puis exclu de l'équipe après des accusations de harcèlement sexuel sur des joueuses selon un communiqué du club. Le coach stagiaire a dragué une fille, elle a refusé. Cette affaire perturbe mon équipe qui a perdu la première place, affirme Siriki Touré, entraîneur principal de l'équipe féminine. La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, a annoncé l'ouverture d'une enquête. La FIF doit par ailleurs élire son nouveau président le 23 mars prochain.
C'était l'espoir. Ado Yakuba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza avec vous, place au dossier du jour. Un nouveau gouvernement de transition de 25 membres a été nommé ce week-end au Burkina Faso. 6 femmes seulement en font partie, dont Olivia Rouamba, qui hérite le ministère des Affaires étrangères. Autre fait notable, le Premier ministre Albert Ouédraogo a rappelé à la Défense le général Barthélémy Simporé, qui occupait son poste sous la présidence de Roch Marc Christian Kabore. Yero Boli fait aussi son retour après avoir servi dans différents gouvernements de l'ex-président Blaise Compaoré. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg, adjoint à Ouagadougou, l'analyste politique Siaka Koulibaly.
Depuis le coup d'État du 24 janvier, tous les Burkinabés attendent que le nouveau pouvoir réussisse un certain nombre de défis. Ce sont d'abord le retour de la sécurité, et puis des réformes qui permettent une certaine stabilité politique sur la durée. Donc voilà, en résumé, les attentes des Burkinabés. Mais on est obligé de donner un certain temps pour voir les premières mesures, les premières décisions, et si ça va dans le sens de ce que tout le monde espère.
Alors, parmi ce gouvernement de 25 membres, il n'y a que 6 femmes. Est-ce que vous êtes surpris, peut-être un peu déçu, peu de parité?
Non, depuis l'instauration de la norme quota genre de 30% genre depuis 2009, on n'a quasiment jamais pu atteindre ce quota de 30%. Donc les Burkinabés, y compris les organisations féminines, sont déjà habitués à ne pas voir ce quota rempli. Le président Kabore, en 2015, quand il a été élu, il n'avait pas réussi à le faire, il s'est monté expliqué. On constate seulement que le quota genre n'est pas régulièrement rempli.
Autre fait marquant, bien sûr, le général Barthélémy Simporé, déjà ministre de la Défense sous M. Roch Marc Christian Kabore, est reconduit. Yero Boli, lui, était un ministre de l'ex-président Blaise Compaoré. Que pensez-vous finalement de ce gouvernement d'union?
Je pense que pour l'instant, il est un peu tôt pour faire des conjectures sur la présence de M. Yero Boli, qui était effectivement un ministre de l'ancien président Compaoré, parce que je pense que dans l'esprit des militaires au pouvoir, il y a un besoin de corriger quelques lacunes de la gouvernance politique passée qui était fortement empreinte d'exclusion politique et d'une certaine violence politique. On peut expliquer la prison de Yero Boli au premier degré par ça. Maintenant, la politique étant ce qu'elle est, il se peut qu'il y ait d'autres justifications de la présence de Yero Boli dans le gouvernement, mais je n'ai pas d'éléments là-dessus. Pour le général Simporé, c'est encore un peu plus compliqué, parce que d'une part, on peut penser que si l'échec des actions de sécurité justifie le coup d'État du 24 janvier, et a assumé à peu près 8 mois à la tête de ce département, il peut être en partie considéré comme responsable de cette situation-là. Donc, je n'arrive pas à justifier, encore moins que pour Yero Boli, la présence dans le gouvernement. Mais il se peut que ce soit la même explication, à savoir une volonté des militaires d'apaiser les tensions et aussi de tenir compte d'une certaine situation dans l'armée actuellement où il y a très, très peu de généraux. Peut-être qu'il fallait lancer un message à l'endroit de cette catégorie d'officiers. Je ne peux pas vraiment être catégorique sur cette question-là.
C'était l'analyste politique Siaka Koulibaly.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En Guinée, réaction mitigée au sujet de l'opération de récupération des biens de l'État engagée par la junte au pouvoir et qui concernerait plus de 80 patrimoines bâtis appartenant à l'État guinéen. Dans ce cadre, 2 anciens premiers ministres guinéens, candidats aux élections présidentielles de 2010 face à Alpha Condé, ont libéré leur résidence après avoir été déboutés par la justice. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
C'est l'un des sujets beaucoup commentés à Guinée depuis quelques jours. Pour Ibrahima Souri Camara, agent commercial, la récupération des biens de l'État ne doit pas être une priorité pour les autorités de la transition.
Le CRND est venu pour la première fois. La notion qu'ils ont tenue, soi-disant qu'ils n'ont pas la chasse des sorcières, parce qu'ils ont tenu ça, bon nombre de Guinéens, ça dans leur tête. Aujourd'hui, on a beaucoup, on le manque à gagner. Le Guinée a besoin d'eau, l'électricité, le travail, l'emploi des jeunes.
Les anciens premiers ministres Eludes Alain Diallo et Sidi Touré ont libéré leurs différentes résidences à la demande de la Direction nationale du patrimoine de l'État. Une action qui n'est pas du goût de ce citoyen rencontré dans la banlieue de Conakry. Amadou Diallo.
L'État devait faire une enquête d'abord avant de les expulser dans leur domicile. Et ce que je pense à ce niveau, il faut que l'État agisse d'abord, regarde les documents qu'ils ont avant de les expulser. Vérifier avant de réagir.
Le tribunal de première instance de Dixin, saisi par les deux leaders politiques, s'est déclaré incompétent de juger l'affaire, une affaire sur laquelle nous avons fait réagir certains acteurs politiques, à l'image de Ibrahim Mbemba Ba du Bloc libéral. Il conseille de respecter la décision de la justice ou de relever appel.
C'est normal qu'il quitte les lieux. Il ne faudrait pas que dans cette affaire, qu'il y ait des sous-guinéens ou des extra-guinéens, tout le monde est justiciable. Et ils ont brandi les papiers. S'ils peuvent se pouvoir ailleurs, je ne connais pas la procédure qui leur reste, si c'est à la Cour suprême ou bien ailleurs au niveau supranational, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO, tout comme fait, pour ce qui est de la justice des tribunaux, ils ont rendu leur décision et tout le monde doit se conformer à ça pour le moment.
Pour sa part, le président du PADES se dit favorable à l'opération, mais Dr Ousmane Kaba dénonce la manière utilisée.
C'est tout à fait logique, mais la manière, c'est là qu'on peut avoir des divergences d'opinion. J'ai dit que la lutte contre la corruption est une lutte importante parce que l'État guinéen n'arrive pas à construire des écoles pour les enfants, parce qu'on n'arrive pas à aider nos agriculteurs. Parce que malgré toutes les richesses de la Guinée, on est parmi les 12 pays les plus pauvres de la planète Terre. Donc il faut lutter contre la corruption.
Quelques heures après le départ de Sidi Touré et celui d'Alain Diallo de leur résidence, des manifestations de rue ont été signalées dans quelques quartiers de la capitale. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le mois de mars dédié aux droits des femmes. Cette année, la journée du 8 mars a pour thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Selon les Nations Unies, les femmes et les filles subissent les plus forts impacts de la crise climatique car celle-ci amplifie les inégalités existantes et met la vie et les moyens de subsistance des femmes en danger. Et la pandémie de Covid-19 a aussi accentué ces impacts liés à l'inégalité. Ce jeudi, nous ferons l'état des lieux sur le combat pour l'égalité dans les domaines socio-économiques et politiques en Afrique. Ce sera à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La multiplication des sanctions n'a jusqu'à présent pas réussi à dissuader l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine, alors que les efforts d'évacuation stagnent à Mariupol en raison des bombardements. Kiev et Moscou se reprochent mutuellement d'avoir violé un cessez-le-feu. Le point avec Arash Arabasadi. Le récit est signé Nathalie Barge.
Les efforts d'évacuation dans la ville portuaire ukrainienne de Mariupol sont bloqués pour une deuxième journée consécutive en raison des bombardements, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par le ministère russe de la Défense. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel pour l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, un appel que les puissances occidentales rejettent. Dimanche, le sénateur républicain Marco Rubio, membre de la commission des relations étrangères, a expliqué pourquoi dans l'émission This Week d'ABC.
I think there are a lot of things we can do to help Ukraine protect itself.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour aider l'Ukraine à se protéger à la fois des frappes aériennes et des frappes de missiles, mais je pense que les gens doivent comprendre ce que signifie une zone d'exclusion aérienne. Ce n'est pas une règle que vous adoptez et que tout le monde doit respecter. C'est une volonté d'abattre les avions de la Fédération de Russie, ce qui serait le début de la Troisième Guerre mondiale.
Au fur et à mesure que les forces russes bombardent certaines villes ukrainiennes, les puissances occidentales augmentent les sanctions contre le président Vladimir Poutine et ses proches, faisant chuter la valeur du rouble. M. Poutine a qualifié ces sanctions de déclarations de guerre alors qu'il en mène une lui-même contre son voisin. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, sur ABC.
Ce n'est pas une voie facile pour le président Poutine. Et comme vous le savez, nous avons obtenu 141 voix contre les Russes au Conseil de sécurité. Ils sont isolés au Conseil de sécurité et ils sont isolés dans le monde entier.
Le ministère russe de la Défense a publié des images prétendant montrer une frappe de drone sur des positions militaires ukrainiennes, tandis que des chars russes traversent des zones boisées. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a estimé sur la chaîne américaine ABC que le combat est plus grand que l'Ukraine.
We don't want back to USSR. We see our future as democratic.
Nous ne voulons pas revenir en URSS. Nous voyons notre avenir comme un pays européen démocratique et moderne. Et nous attendons le soutien de tout le monde, car nous ne luttons pas seulement pour l'Ukraine. Nous nous battons pour des valeurs, pour le monde moderne. Nous devons complètement arrêter Poutine.
L'évacuation de la population se poursuit à Kiev, où les forces armées ukrainiennes se préparent aux avancées russes. Une vidéo de l'armée ukrainienne prétend montrer un hélicoptère de combat russe abattu, le dernier d'un effort de résistance considéré comme féroce. L'Occident semble prêt à poursuivre son soutien matériel à l'Ukraine sans engagement militaire direct dans cette guerre.
La deuxième saison de la Basketball Africa League a débuté samedi à Dakar au Sénégal. Après une première expression réussie l'année dernière, ce tournoi organisé par la NBA revient avec 12 équipes venues de plusieurs pays africains. Mais pour quel impact? La réponse dans ce reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Faire du basketball une locomotive du développement des pays africains, telle est la volonté exprimée par Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League Ball. Pour lui, c'est l'une des principales ambitions de la NBA en Afrique.
Nous restons déterminés à utiliser la Basketball Africa League comme une locomotive de développement économique qui va servir à continuer à inspirer, à responsabiliser, à connecter cette jeunesse africaine et les communautés dans tous les coins du continent afin d'amorcer un investissement dans les infrastructures. Et l'exemple du Sénégal et du Rwanda, de l'Égypte aussi, à son très très en vue et c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous organisons notre deuxième saison dans ces différents pays.
Au-delà du boost économique attendu, l'aspect sportif reste au cœur du modèle de développement de la boule et pour parfait adjuvant entraîneur du Dakar Université Club Duc, la compétition va permettre de booster le niveau des championnats locaux.
Si vous faites le constat, c'est cette année, les équipes se sont renforcées pour aller titiller, pour aller prétendre jouer cette ligue-là. Nous sachons que il faut savoir que quand même, ça va être très 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 difficile. Le niveau est relevé, les gens sont, les équipes ont allé recruter dans la sous-région, ils ont recruté des joueurs de Cameroun. Nous-mêmes, on a recruté un joueur ivoirien, un joueur franco-sénégalo-gabonais. Donc c'est un championnat très relevé qui va se relever d'année en année vu que l'équipe qui sera championne va se qualifier pour.
Pour les joueurs, le principal enjeu est de faire un excellent tournoi sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel, car comme l'indique Abel Abdourahman Diop, capitaine du Duc, la boule est une vitrine pour montrer leur talent.
Le premier objectif, c'est collectif. C'est que l'équipe puisse se qualifier et être parmi les quatre premiers. Et en tant que joueur, essayer de trouver de bons clubs qui pourront venir nous squatter et nous aurons la chance de titiller les clubs les plus relevés du monde, Inch'Allah.
Les dirigeants de la NBA et de la Basketball Africa League Ball estiment que si les pays africains s'inspirent de la politique sportive de nations comme le Sénégal, l'Égypte et le Rwanda, la Ligue pourra atteindre ses objectifs de développement, d'expansion et de promotion des talents locaux à travers le continent. Seydina Abagay à Dakar pour VOA.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À la présentation, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.